Alors je suis avec Marie-Noëlle Rio, bonjour.
Bonjour.
Pour qui a remporté ici un prix à Grigny, on en parlera un peu plus longuement après, mais déjà dans un premier temps, ce que je voulais, c'est qu'on s'arrête un peu sur votre parcours qui est particulier parce que à un moment donné, à une période où on parle de la retraite comme du moment de pause ultime dans la vie, où on a d'ailleurs du mal à le positionner en termes de temps, vous me racontiez en préparant cette interview que vous aviez décidé d'embrasser une deuxième carrière au moment de votre retraite, peut-être un petit retour en arrière sur les instants qui ont précédé et les moments et les temps qui ont précédé cette retraite.
Oui, j'ai écrit toujours beaucoup puisque j'étais dramaturge dans le théâtre et dans l'opéra contemporain. J'ai publié des livres sur l'opéra, etc. Mais j'avais une espèce de rêve qui était d'écrire du roman. Et je n'ai jamais eu ni le temps, ni la disponibilité mentale pour le faire avant de prendre ma retraite. J'ai pris ma retraite à 60 ans. Et puis, j'ai décidé de faire ça, voilà, parce que c'était mon rêve. Je crois qu'il faut toujours faire ses rêves, autant que possible.
Oui, tout à fait. Après, justement, c'est le moment où on le fait. Quand vous me disiez que ça vous démangeait, mais que vous n'aviez pas la disponibilité mentale ni le temps, justement, est-ce que la première préoccupation ou le premier barrage, c'était justement cette disponibilité mentale, c'est-à-dire d'avoir d'autres choses à traiter et pas la constance qu'il faut pendant un temps donné pour arriver à écrire un roman, c'est ça ?
Oui, bien sûr, parce que le spectacle, c'est très prenant. C'est un travail qui mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination. Et là, je ne suis pas quelqu'un qui écrit facilement, qui écrit vite. Je n'ai pas de facilité. Donc, j'ai besoin d'avoir du temps, j'ai besoin d'avoir beaucoup de disponibilité. Vous savez, je crois que réellement, il y a un travail conscient de l'écriture et un travail inconscient. Il faut écouter ce travail inconscient. Il faut lui donner le temps de se déployer. Si on veut forcer les choses, c'est pas bien, c'est tout. Et donc, il faut laisser ce temps naturel de l'imagination, de la transformation des choses pour parvenir à une sorte de vérité. Et de vérité romanesque ou poétique, appelez-la comme vous voudrez. Mais ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas par une simple décision. Et donc, voilà, celui-là, par exemple, c'est mon troisième roman, et j'aurais mis 2 ans à l'écrire. Grâce aussi à l'exigence remarquable de mon éditeur, de mon éditrice, qui m'a dit, dans les 2 premières versions, parce que c'est la 3e version, qui m'a dit, pour les 2 premières versions, non, c'est pas encore ça, c'est pas du tout. Elle avait raison.
Et pourtant, c'était le troisième.
Oui, c'est
ça. C'est-à-dire qu'il y en avait deux qu'elle avait déjà éditées.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, je crois que si on écrit en sachant d'avance, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout et je pense que ça fait de mauvais livres. Je crois que, personnellement, moi, j'écris pour comprendre ou pour savoir. J'écris quelque chose que je ne sais pas d'avance. Voilà. Mm-hmm. Si je le savais d'avance, je ne le ferais pas. Je m'ennuierais très vite.
C'est déjà ce qui vous a motivé sur le fait d'aller, alors que vous écriviez déjà, hein, puisque quand on écrit sur des livrets d'opéra, on écrit déjà et on réalisait des écritures. C'est ce qui vous a amené au roman, c'est-à-dire de dire je vais encore, après cette retraite, me donner un challenge qui est d'écrire différemment.
Oh, c'est pas du tout la même chose. Quand vous écrivez pour le théâtre, vous écrivez pour une équipe, pour beaucoup de gens. J'ai écrit des livrets d'opéra, ça veut dire que c'est d'abord pour un compositeur, avec un compositeur, puis pour des chanteurs, un metteur en scène, un décorateur, etc. etc. C'est absolument pas comparable, alors que le roman, c'est une activité parfaitement solitaire.
Alors que, moi j'entends, je lis régulièrement des critiques en ce moment de romans qui sortent, et on est de plus en plus dans une critique qui apprécie les romans en disant « ce roman, il est formaté pour faire un film plus tard ».
Ah non, ça c'est pas du tout. J'ai une idée très, très traditionnelle de l'écriture. Je crois que, enfin, dans Choses vues, Victor Hugo dit une chose que j'adore. Il dit, il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux d'un quart d'heure, et puis il y a ceux qui veulent écrire vraiment. Voilà. Moi, je veux écrire vraiment. Alors, on peut aimer ça ou pas, on peut trouver ça bien ou pas, ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit bien à mes yeux. Voilà. Et aux yeux de mon éditrice, en qui j'ai une très grande confiance. Et aux yeux de quelques personnes qui sont mes dédicataires. Mon mari, par exemple.
D'accord. On va en venir justement à votre rapport à ces mots. J'imagine qu'avant d'être romancière, vous avez été lectrice de romans. Quels étaient les déclencheurs qui étaient les vôtres sur le fait de craquer ou d'avoir un coup de cœur pour tel ou tel écrit? Est-ce que vous avez réfléchi et pris de la distance par rapport à ce qui vous faisait que vous adhériez à une écriture ou pas?
Oh, je ne sais pas du tout vous dire ça. Je sais qui j'aime. Enfin, oui, il y a peut-être quelque chose en commun avec ceux que j'aime qui vont de Flaubert à Aragon, à Samuel Beckett, à James Joyce, ou enfin qui sont les gens avec qui je vis, dont j'ai le sentiment qu'ils font partie de ma famille d'une certaine manière, parce que je lis et je les relis sans cesse. Mais peut-être ce qui les réunit dans des écritures absolument différentes, c'est que le monde qu'ils inventent n'existe que là, que par la littérature. Et que, par exemple, je déteste profondément tous les romans de l'autofiction ou de l'autobiographie, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai toujours l'impression, comme dirait Lévi-Strauss, de regarder par le trou de la serrure chez le voisin d'en face et de... Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que l'écriture, c'est une transmutation, c'est quelque chose qui passe dans un autre domaine, qui n'est plus le domaine de l'expérience réelle ou réaliste, mais qui est le domaine d'une sorte d'expérience symbolique. Et je pense que c'est seulement ça qui peut se partager en réalité. Non pas par l'identification, mais par une forme de travail intérieur qui donne à l'être, à l'imagination, à la pensée, quelque chose d'universel. Voilà.
Et pourtant, votre dernier roman, dont on parle, Paysage sous la pluie, s'implante ou s'installe dans un Paris des années 1960, dans quelque chose de très très concret. Donc il y a un vrai décor, il y a un vrai perçu encore par des gens. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cet univers?
C'est-à-dire que je crois que ce que je viens de vous dire n'est pas du tout contradictoire avec cela. C'est-à-dire que on peut, je crois que ce que je déteste, c'est le naturalisme. C'est-à-dire cette prétention à représenter la réalité, alors qu'en plus c'est faux. En revanche, je crois que le travail sur le réel, c'est un travail de choix à l'intérieur des signes qui prolifèrent tous les jours. Et que c'est un travail de choix des signes et un travail d'interprétation de ces signes. Alors évidemment, je crois que si l'on écrit avec un peu d'honnêteté, on est obligé de puiser dans son expérience personnelle, dans ce que l'on a éprouvé du monde réel. Et à partir de là, bien sûr, d'en donner une interprétation. C'est ça le travail de la fiction et du roman, c'est cette interprétation-là précisément. Alors bien sûr, moi c'est un roman qui a beaucoup de sujets, qui a plusieurs sujets. Un de ces sujets, c'est le temps. Les trois quarts de ce roman se passent dans les années 60, à la fin, dans la dernière moitié des années 60, et la dernière partie se passe aujourd'hui, donc à une distance de plus de 40 ans. Mm-hmm. Et c'est cette distance-là qui est le moteur de ce roman. Donc évidemment, les souvenirs que j'ai du Paris de cette époque, c'est des souvenirs qui me sont très personnels. C'est ça qui m'a donné la nourriture, la couleur de ces années-là. Et ça passe par des choses que l'on peut partager dans la même génération. Par exemple, il y a une chanson de Leonard Cohen qui circule dans Paysage sous la pluie, qui s'appelle Suzanne, que tous les gens de mon époque ont chanté et ont connu absolument par cœur. Mmh. Et donc c'est ça qui donne cette distance du temps. Voilà, ce temps-là entre, ça c'est quelque chose dont je ne parle pas.
D'accord. Ces trois héroïnes, Alice, Laure et Fleur, qui sont les héroïnes de votre roman, Est-ce qu'à votre avis, elles s'inscrivent dans ce temps qui était celui des années 60 ou est-ce pourrait très bien s'inscrire dans celui de ces années 2010 et futures, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de d'évolutions qu'on présente comme des révolutions, ou est-ce que ce n'est que des évolutions, et est-ce que finalement l'humain fonctionne pareil? Ou peut-être la femme déjà dans un premier temps.
On est une petite espèce assez récente. On date de 250 millions d'années, c'est pas grand chose. Ouais. Et je ne crois pas qu'entre les années 60 et aujourd'hui, ce que nous sommes ait beaucoup changé. On a tendance à nous le faire croire, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que en réalité, ce qui nous meut, c'est-à-dire le désir, l'amour, la mort, la connaissance. C'est quelque chose qui reste étonnamment semblable. Alors, les traductions officielles qu'on en donne, évidemment, non. Mais sans ça, comment pourriez-vous lire Flaubert, par exemple? Comment pourriez-vous lire Rabelais? Comment pourriez-vous lire les tragiques grecques si nous avions changé tant que ça? Si nous étions si différents? Nous ne le sommes pas. Nous sommes les mêmes. C'est seulement l'habillage qui a changé, je dirais.
L'habillage est peut-être aussi la façon dont on perçoit, enfin le temps justement, et je repense à ce parallèle entre votre expérience de l'opéra, du cinéma. On parlait tout à l'heure effectivement d'écrire des romans comme des scénarios de cinéma ou de les écrire autrement. J'ai l'impression que ce qui prédomine chez vous, c'est effectivement de redonner un sens au temps, en ce sens que quand on est dans une écriture, il y a un temps d'écriture et un temps de lecture. Par rapport au décor qu'on n'a pas dans l'opéra ou dans le cinéma où la perception du décor se fait tout de suite et donc on n'a pas le temps d'identifier les différents éléments qui en font partie.
Ah oui, vous avez raison, c'est-à-dire que je crois que dans tous les arts de représentation que sont le cinéma, le théâtre, l'opéra, etc., il y a un temps prescrit, un temps dont on pourrait dire le spectateur est captif. Alors que moi, ce que j'aime dans le livre profondément, c'est ce vagabondage dans les pages, c'est-à-dire je peux m'arrêter quand je veux, revenir en arrière, relire, aller plus avant. Je trouve que ça, c'est rien ne peut remplacer ça. Ça, c'est la spécificité absolue du livre, et je pense que c'est cette chose merveilleuse du rapport entre un auteur et un lecteur. Avec le paradoxe que l'auteur ne connaît pas son lecteur, à très peu d'exceptions près, ce paradoxe-là fait que c'est une des relations les plus intimes qui soit. Je crois qu'il n'y a pas d'écriture sans lecteur. Et que le rapport entre un auteur et un lecteur, c'est un rapport intime, très proche, qui peut être extrêmement important. Moi, je sais qu'il y a des livres qui ont transformé ma vie. Voilà. Et jamais un film. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la musique, mais jamais un film, jamais un art de représentation, une œuvre de représentation n'a transformé ma vie comme quelques livres.
D'accord. On en vient aux mots que vous utilisez. Alors effectivement, enfin, quand je vois votre parcours, des mots, il y en a des millions qui ont croisé votre route, que vous avez dû retenir et pêcher au passage. Je reviens à ce que vous disiez en début d'interview par rapport à votre rapport à Valérie Millet, votre éditrice aux éditions du Sonneur. Est-ce que quand elle a refusé ou quand elle a modéré ou qu'elle vous a demandé de revoir votre copie sur les deux premiers exemplaires, c'était une question de mots ou de scénario, je vais le dire comme ça?
Je dirais de substance, d'enjeu et de contenu. Voilà. Parce que sur les mots, elle me fait complètement confiance. Les mots, je les connais.
Justement, oui.
J'ai mon lexique à moi. Mais de contenu, d'enjeu, elle a bien vu que je tournais autour du pot, c'est-à-dire que je n'y allais pas tout à fait, quoi. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas droit. Et j'avais peur d'y aller tout droit. Bon, j'ai bien fini par le faire, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà.
Depuis ce matin, vous êtes sur l'autre salon, ici à Grigny. J'imagine que vous avez humé l'air du temps, touché et été découvrir les uns et les autres. Comment vous percevez ce salon, l'autre salon justement, En quoi il est différent et en quoi il est pour vous similaire aux autres?
Je dois vous avouer que je n'ai pas tellement eu le temps d'aller regarder les stands. Il y a quelques éditeurs ici que je connais, notamment le temps des cerises. Mais d'abord, c'est très gai, je trouve. Et puis ensuite, j'ai écouté, pour une fois, des discours officiels qui m'ont plu. En général, c'est d'un barbant absolu, les discours officiels. Et là, j'ai entendu un maire, un élu du Conseil Général, un adjoint au maire à la culture, et puis Thierry Renard, qui par ailleurs est un ami, dire des choses qui me sont proches, c'est-à-dire qui situent le livre dans son enjeu véritable, et qui n'est pas un enjeu de commerce, qui est de commerce financier, mais qui est un enjeu de commerce des consciences et des âmes, je dirais, si je ne craignais pas d'utiliser ce terme un petit peu métaphysique. Et donc je me suis sentie chez moi, voilà. Je me suis sentie en famille ici.
Alors, vous avez remporté le prix Léo Ferret. Symboliquement, Léo Ferret, fait partie à vos yeux des autres artistes, comme on parlait de l'autre salon, ou des artistes qui se sont, au fil du temps, implantés dans la culture institutionnelle?
Ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'on peut être, on peut tenir absolument une ligne de résistance, comme disait le maire tout à l'heure. On peut tenir tout à fait une ligne de résistance et que cette ligne de résistance soit reconnue par un grand nombre de gens. Ça n'empêche pas. Ça a été le cas de Ferré, je crois, comme de quelques personnes qui, tout d'un coup, rencontrent chez les gens les plus inattendus une écoute et une, je ne dirais pas une identification, mais un accord. Ça peut exister, et quand ça existe, c'est formidable.
Très bien. Merci Marie-Noëlle Rio.
Merci à vous.